Mais ouais, franchement, là, allez voir les producteurs de patates. C'est vraiment une belle production. Puis quand les champs sont en fleurs, là, c'est ça coche.
À l'île du Prince-Édouard, ils font quelque chose de particulier quand même.
Ouais. À l'île du Prince-Édouard, il y a encore une ferme qui récolte 100% à la main. Merci.
Moi, des mots, si t'en veux, tu me demandes, je te les donne. Gratis!
C'est un gars de mots, ça.
Ben, gars, les fleurs blanches, c'est d'original. Les fleurs mauves, c'est des all-dress.
C'était la partie histoire de notre podcast.
Présentement, au studio Romarin, voici Fondrait.
Fondrant remercie ses commanditaires. La récolte des cantons, un marché où on peut faire une épicerie complète 7 jours sur 7 au 603 route 139 Bromont, ainsi que Construction des Landes, qui réalise des projets agricoles, commerciaux et résidentiels. Pour un projet clé en main, livré à la date demandée, ça vous prend Construction des Landes. Fondrant est disponible sur YouTube en vidéo ou sur Spotify et Balado Québec pour l'écouter assis tranquillement dans ta voiture ou ton tracteur. Bonne écoute!
Salut les gars!
Salut!
Ça va bien?
Ben oui, toi?
Yes, comme d'habitude.
Ouais, ben Dan n'est pas là.
Dan n'est pas là.
Ouais. Comme d'habitude.
Ben oui, tu t'es encore assis dessus.
Ouais.
Colin, l'autre fois tu t'es levé.
Ouais,
fait que là, il est apparu. Puis là, c'était
c'est ça.
Alors, hey, aujourd'hui, on va jaser de chips, de patates, de la pomme de terre. On va recevoir un invité. Mais là, la bière du jour, ça va être
La bière du jour, ça va être encore l'invité.
Yes.
C'est encore l'invité qui l'emmène. Il emmène de la bière de son coin.
Ouais.
On va vous expliquer ça.
On a bien hâte de voir c'est quoi, puis de goûter à ça. Là. C'est bien gentil. Puis à part de ça, ben là, quoi de neuf ces derniers temps?
Fait chaud?
Oui, il fait chaud.
Ouais. Ben là, on va être pas mal rendu autour des battages de céréales d'automne, peut-être plus. Là.
Ouais.
Après ça, il va y avoir les nivellements, les semis d'engraveurs. On va être pas mal rendu là. Il y a eu, dans les semaines passées, des orages assez violents. Des places, là, il y a du maïs qui a couché, des céréales qui ont couché.
J'entends dire que c'est pas un stade critique. Là,
c'est pas un stade critique
même
encore.
S'il couche, là.
C'est ça. C'est pas un stade critique. Moi, je n'ai vu des champs, là, ils ont couché, puis 3-4 jours après, c'était relevé. Ouais. Ça va faire des champs mêlés. Tu fais. Faut que tu y ailles le plus vite possible, aller battre ça un coup que ça va être mûr, là, pour pas que ça tombe tout à terre.
Ouais, parce qu'il y a pas une faiblesse. Là.
Ouais, c'est ça. Là, ça fait des cols d'oie qu'on appelle. Là. Il pousse croche un peu, mais il s'est relevé. Là. Ça va être ramassable.
Fait que là, dans le nez à maïs,
ça va être cool.
Ça va être le fun.
Nassaya, ça va être mieux.
Non. Ouais.
Ah, ouais, ben y en a qui le font. Hein.
Ouais.
On a vu ça. C'est que des fois, le monde, il sort la table. C'est sûr que dans la batteuse, ça doit
c'est
être
grand. C'est tout grand,
ouais. Ouh, dans la batteuse, là.
Ouais. Il y a des champs qui ont eu de la grêle aussi. Ça, c'est moins le fun, un peu. Les gars, pour régler le problème de ça, ils mettent un fongicide, des fois des foliaires, pour aider au stress, là.
Ouais, prévenir, puis...
Nous autres, en parlant de fongicide, on a fait... On a arrosé du soya un peu, première passe. Des fois, on fait des champs qui ont deux passes de fongicide, là, des places. Là. Sinon, moi, j'ai commencé à préparer ma batteuse pour le blé d'automne.
Ouais, ça sent bien, c'est ça.
Mm. Ouais, ça sera pas trop long qu'on va être là-dedans.
Ouais. Après ça, tu tournes en rond, faire du nivelage.
Mm.
Ça tourne.
Ah, tu tournes.
Non, mais c'est le fun, c'est le bout, le fun, parce que tu commences le matin, il fait chaud, on est bien dehors.
Ouais.
Tu pars, tu rentres dans ton tracteur, puis tu te mets à tourner. C'est relax.
L'air clim à l'auge dans ton tracteur.
Ouais, là, quand l'air clim à l'auge, là.
C'est moins.
Là, t'es dans ton aquarium, là, puis là, tu t'es ennuyé de ton air clim. Vous autres, après vos niveleurs, en mettez-vous de l'engraveur, ouais?
Ouais.
Qu'est-ce que vous mettez habituellement?
Moi, j'aime bien mettre du poids parce que ça amène de l'azote. Ça capte l'azote de l'air pour
le
mettre dans ton sol. J'aime bien mettre une graminée aussi avec ça pour faire un couvert végétal puis amener un peu de matière organique aussi.
Ouais.
J'aime bien ça. Ça coûte pas trop cher. Puis, c'est pas pire. Puis du radis aussi, du radis décompacteur. Ouais. Donc,
Moi aussi, ben, c'est du blé, du radis, pas mal.
Ouais.
Du poids, cette année, je pense qu'on a essayé du poids un peu. Là. Mais d'habitude.
C'est le fun de mettre du radis, mais quand tu vois que
ça décompacte.
Ça pousse, là, puis quand tu vois que ça décompacte. Là...
Moi, c'est encore plus au printemps quand tu passes le vibro et tu vois tous les petits trous dans la terre. Que, ben, les petits trous, ça dépend de l'année. Là.
Ouais.
Tu vois les trous dans la terre, ça a fondu, puis l'eau a descendu dans la terre, puis là, ça fait décompacter.
Avec le gel.
Ça gèle, dégèle, ça fait décompacter le sol. C'est plus ça que juste le radis. Là.
En parlant de ça, nous autres, l'année passée, on a essayé. D'habitude, tu détruis ton champ, mettons. On n'a pas nivelé, mais un retour de blé d'automne. Nous autres, on a juste passé des pattes dedans, dans notre engraveur.
Ouais.
Puis on a ressemé du maïs dedans. Il était pas beau au début, là, parce qu'on dirait qu'on a semé un peu dans la couenne.
Ouais. Ok, ouais, le contact n'était pas parfait.
On va voir ça à l'automne, mais il
était... Ok, vous avez fait ça cette année.
Bon, ouais, c'est notre premier, on fait des tests.
Ouais, ouais.
Mais, puis... le engrais vert demain, nous autres, on... c'est parce qu'il y a bien des façons de faire de l'engrais vert. Nous autres, ouais. Ce qu'on veut, c'est que ça soit morte au printemps. Puis là, cet hiver, il n'a pas fait de fret, fait qu'il n'est pas morte.
Toi, on l'a arrosé.
Ouais, c'est ça.
Fait que... Tu l'arroses au printemps?
On l'a arrosé au printemps.
Ouais.
Après, on a semé. Dans le fond, quand il a fait sec, quand c'était le temps de semer du blé, mettons, le 16 avril,
ouais.
Quand nous autres, on a semé notre blé, ben mon père il a passé, il était donné un coup avec la roseuse. Un beau mélange.
Non, mais après... tu veux être sûr que ça meurt, là, Tim.
Ouais, c'est sûr,
ça. Tombe à, en plus, ça tombe avec la compétition. Là.
Ouais.
Ouais, c'est ça. Puis surtout un printemps sec comme on a eu, ouais. Ben là, nous autres, on l'a vécu. Tu voyais, il y avait un plant de blé qui avait passé, puis à côté, le maïs, ouf, il était plus petit que le reste.
Le blé, il a gobé l'eau.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'était pas parfait, mais on s'adapte, c'est comme quand même nouveau, les engrais verts, là, fait que on s'adapte.
Ah ouais, c'est ça, c'est des tests, là, puis...
C'est ça.
Tu vois-tu des différences, toi, dans tes champs, depuis...
Ben, j'ai jamais fait de...
D'analyse,
de tests, un ou l'autre, mais... Quand, au printemps, là, l'ami, quand on a un bel engrais vert, là, l'ami est super belle quand on réussit notre coup comme il faut, là.
Ouais, il y a tellement de variantes.
C'est ça. Là, ça dépend. Tu veux-tu mettre un engrais vert pour un couvert végétal pour garder ton sol en place? Tu veux-tu un engrais vert pour faire de l'azote, de la matière organique, tu sais? Il y a plein de façons de penser, puis...
Moi, je trouve que ça, c'est pas mal l'avenir des engrais verts.
Ah oh, oui, ça va tout venir. L'automne, là, voir des sols à nu, là, ça va être de moins en moins. On va en voir de moins en moins. Là.
Mais ça, on le voit souvent l'hiver. Là, mettons, tu te promènes sur le bord du chemin, puis t'as un champ qui est complètement couvert, qui a eu un couvert végétal, puis il n'y a pas de terre. Ça neige.
Oui, puis l'autre champ d'après qui a été labouré.
Qui a été labouré, là, tu vois, la neige est sale.
Ouais.
Tu sais, moi, ce que je pense, c'est de faire un couvert végétal, mais commencer à l'incorporer un petit peu à l'automne pour qu'il se dégrade tranquillement au printemps. Okay. Puis qu'il commence à. Tu sais, qu'il ait déjà commencé à.
Tu passes un coup de disque ou.
Ouais, un petit coup de déchaumeuse, là, mais vraiment superficiel. Là, ouais.
C'est plate, tu peux pas aller chercher la subvention. C'est plate, ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais. Quand tu détruis ton engrais.
Ah oui, à l'automne, c'est vrai. T'as plus droit à ta subvention.
Parce que dans le fond, la subvention est faite pour avoir un couvert végétal pour garder nos sols. Puis tu sais, tout ce sol-là que tu perds sur le dessus, ben c'est ta belle terre.
Ouais, c'est toute ta plus belle terre. Ah!
Ouais.
Non, c'est le fun, les engrais verts. C'est beau à voir.
On invitera quelqu'un à parler à un moment donné.
Ouais, c'est vrai. On pourrait. Un expert en couverture végétale. Mais sinon, à part ça, les patates, vous autres, c'est quoi vos chips préférés?
C'est des Aldress.
Les Aldress, toi?
Ouais.
Moi, c'est sel, vinaigre. Mais pour vrai, n'importe. Aldress.
Ouais.
Peu importe. Ouais. Barbecue.
Les sel et vinaigre.
Hein?
Moi, c'est pas mal plus sel et vinaigre. Ou les Giappelleno.
Moi aussi.
Les Giappelleno. Les Giappelleno.
Ouais, tout ce qui est fort.
Tout
là,
ce qui pique.
Tout ce qui pique. Mais non, c'est ça. Puis je me suis rappelé d'une anecdote, Kim, quand on était jeune.
Une anecdote de chip.
Non, pas de chip qui pique, là, mais de chip, là. Mais juste de chip. quand on était jeune, je me rappelle, je sais pas si ma soeur s'en rappelle, un moment donné, ma mère, elle dit, bon, ben là, ça suffit les cochonneries, on mange juste des légumes. T'sais, habituellement, le vendredi soir, on écoutait un film, puis on mangeait des chips, tout. Puis là, elle voulait pas, là, on dit, on mange des légumes, on mange chanté. Je me rappelle, j'avais dit, ouais, mais maman, des chips, c'est des pommes de terre. Mm. Elle savait pas quoi dire, fait qu'on a mangé des chips. Je l'ai eu de même. Ouais.
Fait que non, c'est ça. Fait que ça a été fini là.
Ça a été fini là. Ma mère, elle a lâché prise. Elle a dit fuck off.
C'est une grosse perdue.
Il veut ses pâtes et ses chips. Il veut
manger. Ouais, il va manger.
Ah ouais, je me rappelle sa face, ça a comme fait. Ah, ok.
Ben,
ouais. Fait que, on est-tu déjà prêt à recevoir notre invité?
Ben, je pense que oui.
Ouais.
Ouais. Fait que aujourd'hui, on reçoit un gars dans les patates depuis 52 ans. Ben, pas lui, mais son entreprise. Voici Maxime Goyet.
Bonjour Maxime.
Salut.
Ça va bien?
Ben oui, super bien, vous autres.
Ben oui, merci. Hey, je peux pas te dire merci d'avoir accepté notre invitation parce que c'est toi qui nous as contactés.
Oui, exactement. Je vous ai approché un peu. J'ai écouté votre podcast pas mal depuis le début. Puis moi, ce qui m'a intrigué puis ce qui m'a un peu titillé, c'est votre question que vous posez tout le temps aux invités. T'es-tu plus frite au pilier? Mais j'ai fait, hey, posez donc la question à un vrai gars de patate.
Ben oui, Colin.
On en reparlera après.
Alors, c'est super gentil, Crème. nous avoir contacté puis nous avoir dit que tu étais intéressé à venir jaser de ta production.
Ben oui, certainement.
Fait que là, tu nous as emmené en plus de la bière de ton coin.
Ben oui, exactement. Je vous ai emmené des bières de la microbrasserie de la Côte à Beausoleil, qui est située à Saint-Jean-de-Mata. J'ai emmené deux sortes. La première sorte, c'est la Bar Pils, qui est une pilsner, une blonde qui se boit super bien en été, super fraîche, agrumée. Elle a vraiment un super bon goût. Puis, une petite surprise aussi en avant-première, c'est une bière qui est pour leur troisième anniversaire, qui avait lieu hier, dans le fond, le 15. C'est une bière qui est une collaboration avec la microbrasserie Très Carré, qui est à Saint-Côme. C'est une bière qui va présenter des arômes un peu boisés. Dans le fond, ils travaillent avec des fruits qui viennent du bois et des choses comme ça. Pis c'est du grain qui a été produit dans la région puis qui a été brassé à Trois-Rivières. Qui a été torréfié à Trois-Rivières puis qui a été brassé à Saint-Jean-de-Mata.
C'est cool. Donc là, on a de la primeur en plus.
Vous avez de la primeur en masse. Moi aussi, je vais me garocher dans celle-là.
Y a-tu goûté celle-là ou pas encore?
Pas encore.
Hey Max, j'aimerais ça que tu te présentes puis que tu présentes ton entreprise aussi.
Bien, certainement. Moi, je m'appelle Maxime Goyet. Mon entreprise, c'est les fermes MVG. En réalité, j'ai trois entreprises. On est, dans le fond, on avait trois sous-divisions. J'ai les semences Marimax. On a déjà produit des pommes de terre pour la semence, pour notre propre semence, mais aujourd'hui, on ne le fait plus dû aux complications ministérielles. Et bon,
OK, parce que, mettons, vous faisiez vos pommes de terre, puis vous les... c'était pour vos semences à vous autres.
Oui, on achetait une base, qu'on appelle, qu'on plantait, puis cette base-là, on la récoltait pour la replanter l'année suivante. Okay. Dans le fond, c'était de la multiplication.
Ouais, c'est ça.
On faisait de la multiplication de nombres avec ça. Puis on la replantait par ensuite. Après ça, on a une entreprise qui se consacre dans la pomme de terre de table, qui est Agriloc. On fait les cultures de rotation avec cette compagnie-là. Puis je fais tout ce que je vends aux emballages. Moi, je suis seulement qu'un producteur de vrac. Okay. C'est-à-dire que tout ce que je produis, je le vends soit aux emballeurs, la transformation, ces choses comme ça, je débarrasse là. Puis ensuite de ça, j'ai les fermes MVG. Eux autres, on est spécialisés dans la croustille.
OK.
On fait des patates pour les chips.
Ouais,
hein? Ça aurait été bon avec les gants ouais. Sacs de chips, hein? J'y ai pas pensé, celle-là.
Pas grave.
Ça va être
ouais, pour le son.
Ça va être le micro. Je...
ouais. Le petit trou de couche. Fait que, grosso modo, c'est ça. Ben, dans le fond, mon grand-père, lui, a commencé à faire des patates v'là plusieurs années. Il a décidé de se concentrer vraiment dans patates en 1971, parce qu'au début, il y avait des vaches laitières, puis il y avait des cochons. Okay. Il a décidé de tout se débarrasser de ça, parce que là, quand arrivait le temps des foins, c'est le temps des fongicides dans les patates. Fait que là, mon grand-père s'était dit, là, je néglige un des deux, j'ai pas le choix. Fait qu'il a dit, ben au diable les vaches, puis on se concentre dans les patates. Fait qu'en 71, il a vendu son quota, il a vendu son troupeau, il s'est aligné dans les patates, puis il a parti là-dedans depuis ce temps-là. Puis mon père, lui, a fondé les fermes MVG qu'on connaît aujourd'hui en 85.
Okay.
Puis depuis ce temps-là, ça roule. Il a fondé ça avec sa sœur, ma tante Micheline, puis mon grand-père, ma grand-mère. Puis on partait avec ça. Au début, on a commencé avec 200 acres. Puis aujourd'hui, ben, je suis fier de dire que je cultive au-dessus de 3200 acres.
Un autre tabarouette, OK. On en fait des patates.
Ouais. C'est pas juste en patates, il y a des rotations aussi, mais je te dirais par année, on fait à peu près 1500 acres de patates. Okay. 1500 acres de patates par année.
Tes rotations, là, c'est quoi à peu près? C'est quoi tes rotations?
Mes rotations, là, présentement, je suis en essai avec de l'avoine. Parce que là, fort probablement qu'on va s'aligner pour une rotation 3 ans au lieu de 2. Mais ma rotation principale, c'est du millet perlé. C'est okay. Carrément un engrais vert que je vais planter, qui va me coûter de l'argent, mais qui me rapportera zéro.
Mais qui va te rapporter l'année d'après.
L'année suivante. Ah, là, par exemple, on parle de doublage de rendement, puis on parle de rétention d'eau dans le sol. Parce que moi, mes patates, je cultive dans du sable. Puis quand je dis du sable...
Sable, c'est du sable.
C'est de la plage, là, c'est de la beach. Là. À Saint-Thomas, le sable qui est là, il a sa propre catégorie. C'est la catégorie sable Saint-Thomas.
OK.
T'as des sortes de sable?
Oui.
Ben, comme les argiles Saint-Urbain, ces affaires-là.
Exactement. Nous autres, notre sable, il est catégorisé. Sable Saint-Thomas, il est tout seul dans sa catégorie, puis c'est ça.
L'histoire raconte que le Bleach Club, il voulait se faire là.
L'histoire raconte que j'ai déjà vendu du sable pour des places comme ça, justement. Oui, sans joke.
C'est drôle.
Ben, c'est sûr, ça doit être du sable.
Oui, c'est du beau sable fin. Vraiment. Oui, vraiment.
Puis vous faites pas de grande culture ou.
On en a déjà fait. J'ai déjà fait du maïs pendant 5 ans en rotation. C'était du maïs planté spécial parce que nous autres, on plante aux 36 pouces, okay. Non pas aux 30 pouces. Fait qu'on a déjà fait pendant 5 ans, ça a été payé une année sur 5. Fait qu'on a, on a déchanté un petit peu de ça avec le temps. Okay. Puis les résidus que ça laissait dans le champ, ça mangeait vraiment tous les nutriments que je mets dans ma patate, que ce soit mes engrais, mes fertilisants, tout ça. Le maïs le mangeait pour lui se décomposer. Fait qu'au bout de la ligne, j'avais pas le rendement que je voulais, puis les maladies sont arrivées là-dedans, fait qu'on a décidé de,
d'arrêter ça.
De décrocher de ça. Okay.
Fait que tu fais une année de patates, puis une année de millet perlé.
Une année de millet, exact.
Millet, oui.
Oui, c'est ça, millet perlé. Okay.
C'est quoi la caractéristique du millet? C'est pourquoi le millet?
Pourquoi le millet? Dans le fond, à l'intérieur, le jus qui est dedans, il y a un effet qu'on appelle nématicide. C'est un des gros ravageurs dans patates qu'on a, c'est le nématode doré. C'est un ver microscopique qui s'attaque surtout au système racinaire puis qui va manger le plant par la racine qui va s'attaquer ensuite au tubercule. Puis après ça, il va monter dans le plant.
OK.
Fait que, il y a déjà eu un cas de nématode doré à l'Ange Gardien, pas très loin d'ici, ouais. Qui était un cas assez grave, là. Il a fallu que les récoltes soient détruites au complet. Puis ça a été une grosse saga. Fait que nous autres, pour prévenir ça, bien là, je fais des cultures qui ont un effet nématicide. Puis en même temps, bien, ils ont un effet sur le rendement. Ça va venir doubler mon rendement. Puis en même temps, bien, de la matière, mettre de la matière dans le sable, ça va augmenter ma rétention d'eau. Parce que moi, la patate, bien, son ami numéro un à la patate, c'est l'eau.
Ouais.
Puis t'es dans le sable. Fait que...
Puis je suis dans le sable, fait que ça l'aide pas. Hein? C'est carrément verser de l'eau dans un screen, là, ça passe au travers, c'est fini.
Avez-vous des systèmes d'irrigation?
Beaucoup.
Beaucoup, hein? Beaucoup. Pas mal partout.
J'ai 21 enrouleurs haute pression, puis j'ai 17 pivots basse pression. Puis on peut garnir tout ça de 21 moteurs qui pompent de l'eau.
Tout à proximité des étangs ou...
J'ai des lacs artificiels, rivières, cours d'eau.
OK.
C'est pas mal ça, mais plus souvent, ça va être des lacs artificiels.
OK. Vous avez tout fait ça.
En tout cas, cette année, on manque pas d'eau dedans.
Ouais, ah, c'est ça. Ça. Ouais. Ça avez-vous eu besoin d'irriguer cette année, peut-être un petit peu au printemps?
J'ai irrigué, je te dirais, à date depuis le début, depuis que les systèmes d'irrigation sont rendus dans les champs, j'ai irrigué 4 jours.
Ah OK.
À part ça,
d'habitude,
il pleut.
D'habitude, t'es rigue
de la Saint-Jean-Baptiste à aller jusqu'au, des fois, 1er, 2 septembre, là, avant qu'on récolte. Là.
Ah, OK. Puis, quand même.
Oh, oui, ça prend de l'eau. Je vous le dis, ça prend beaucoup.
C'est combien, sais-tu, c'est combien de gallons que tu sais, faut-tu mettre, mettons?
Calculer tout au complet, ça serait vraiment très gros, là, mais...
Tu t'arroses, puis...
Ça n'a aucune limite.
Ouais, c'est ça.
Ça n'a aucune limite. Quand ils ont besoin d'eau, je suis équipé de tensiomètres, dans le fond, que je place dans mes champs les plus critiques par secteur. Puis le tensiomètre, lui, va me dire, mettons, la quantité d'humidité qu'il y a dans le sol. Fait que je suis capable de me dire, bon, OK, on voit que l'humidité est assez haute, fait qu'on peut slacker un peu l'irrigation, on peut donner des coups plus longs. Puis là, quand je vois que le tensiomètre descend, là, whoop, là, ça prend de l'eau, puis là, on irrigue.
C'est un autre mode.
Il faut suivre ça à la lettre. Là.
Ah ouais.
À la lettre, vraiment.
Ouais, c'est sûr. Parce que s'il manque d'eau, il est comme déjà trop tard. Il y a
si
déjà...
j'ai pas d'eau, j'ai pas de récolte.
Ouais, c'est ça.
Si j'ai pas d'eau, je vais récolter des patates grosses dans l'eau.
Des patates
grelots. Je fais pas grand chose avec ça, je vous le dis.
Des patates à fondu.
Ouais, de ça, des patates à fondu.
Toi, pour ta production de patates, as-tu fait des cours en particulier pour faire ça ou c'est avec le temps que tu as appris avec ton père?
Oui, il y a avec le temps. J'ai beaucoup appris avec mon père, j'ai appris avec mes deux cousins parce que là, présentement, je suis partenaire avec mes deux cousins, mon père, ma mère qui est dans tout ça aussi. Mais j'ai fini mon secondaire, j'ai fait un DEP en mécanique agricole.
Okay. Yes.
Good, ça. J'ai fait ça. Puis ensuite de ça, un peu plus tard, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la plateforme d'entrepreneuriat agricole de l'Université Laval.
Je me suis pas rendu là.
Ouais, t'es pas rendu là. En tout cas, bref, il demandait seulement qu'aux gens d'avoir, mettons, un diplôme d'études secondaires ou une spécification dans le domaine agricole. Puis je trouvais que j'avais mon DEP en mécanique. Fait que j'ai fait, ben, je vais essayer ça. T'sais. C'est quand même un cours d'université et tout ça. Fait que je suis diplômé de l'Université Laval en entrepreneuriat agricole.
Good job.
Fait que j'ai fait partie de la première cohorte de ce cours-là. Okay. Ça a été vraiment son début-début. Là. Ça avait été présenté au Salon de l'agriculture à Saint-Hyacinthe, tout ça. Fait que j'ai fait, ben, go, je vais foncer là-dedans. C'est pas mal mes seules spécifications à part ça. C'est du... prenant un peu partout, puis à parler avec du monde, puis tout ça. J'ai appris des
techniques. Puis apprendre avec tes... ton père, puis...
Exact.
C'est quoi la production, mettons, de... numéro un, tu mets une patate dans la terre, ou même avant ça, il y a des étapes.
Avant ça, oui, il y a un gros processus avant tout ça.
Des patates dans mon assiette.
Bon, si on part de la base, aller jusque dans ton assiette, c'est ça que tu veux savoir?
C'est ça.
OK. Étape numéro un, c'est le semencier. Le semencier, lui, va recevoir ses multiplicateurs venant des centres de recherche qui développent, dans le fond, les variétés qui soient, exemple, résistantes à sécheresse, résistantes aux nématodes, qui soient résistantes à certaines maladies, exemple le fusarium, des choses comme ça. Lui, dans le fond, va procurer ça au semencier. Puis le semencier, lui, va arriver puis il va dire, bon, ben parfait, je vais multiplier ces variétés-là pour ensuite de ça les distribuer aux producteurs alentours. Fait que moi, dans le fond, je vais arriver chez un semencier de ce monde que je vais nommer, qui est les Patates Lac-Saint-Jean. Okay. Ils sont situés à Péribonka, au Lac-Saint-Jean. Eux autres, ben dans le fond, je vais aller acheter ma semence-là. Là, je vais dire, bon, ben exemple, pour faire, exemple, 150 acres d'une variété, bon, ben je vais dire, bon, ben ça va me prendre une vanne de cette variété-là. Là, normalement, quand on charrie ça, c'est en dégel, fait que là, c'est 65 000 livres. Fait que, tu sais, ben souvent, ça donne une ou deux remorques, mettons, pour faire un 150, 200, 300 acres. Fait qu'ensuite de ça, moi, je reçois les semences. Ça va être des semences complètes, ça va être des patates complètes que moi, je vais trancher. Je vais les trancher soit en deux ou en quatre, tout dépendant de la grosseur. Moi, ce que je recherche, c'est des plantons d'à peu près 2 onces à 3 onces en termes de poids. Ensuite de ça, on va les traiter pour les semences. On va mettre un activant dedans, puis on va mettre aussi un antinématode par-dessus. Puis ensuite de ça, ça s'en va au séchage. On les laisse sécher dans des boîtes de bois pendant au moins 2 jours en entrepôt, pour après ça, pogner les boîtes, amener ça au champ, planter. Ensuite de ça, ben là vient le temps du plantage. On a pour, habituellement, pour 1500 acres, j'en ai pour 2 semaines vraiment à côté, qu'on se dit qu'on claire ça d'un bout à l'autre, 2 semaines. Puis ensuite de ça, ben il reste qu'à prier le bon Dieu que ça sorte, parce que, tu sais, c'est bien beau mettre de quoi dans la terre, mais ça veut toujours pas dire que ça veut sortir.
Fait que, il y a assez de facteurs, hein, comme on a parlé un peu avant qu'on commence à enregistrer, tu as eu beaucoup de mauvais temps, là,
ces derniers temps. Oui, exactement. Là. On n'est pas à l'abri de ça. C'est les éléments de la nature, c'est incontrôlable. Nous autres, on laisse ça aller. Il y a des gens qui ont eu des gros dommages. Ça a été rock'n'roll. Moi, je me considère chanceux. J'ai été quand même pas mal épargné. Mais il y a des gars qui ont perdu beaucoup. Le trop d'eau, moi, les pertes que j'ai eues, pour l'instant, c'est dû à ça. C'est vraiment le trop d'eau. C'est 8 pouces d'eau qu'on a reçu en 4 jours, là, ça a été rock'n'roll. Mm. Fait que, ensuite de ça, après le plantage, un coup que c'est sorti, on va appliquer ce qu'on appelle le side dress. Je vais mettre de l'engrais en bande à travers de mes rangs que je vais injecter directement vers le système racinaire de la patate. Okay. Pour qu'elle puisse aller chercher ses nutriments.
C'est avec des 10, tu passes un 10?
Ça va être des pâtes avec des tubes. Okay. Puis dans le fond, j'ai une grosse cuve d'engrais sur ma machine. Puis l'engrais coule d'un tube, ça s'en va au rang. Puis ça va lui donner un nutriment supplémentaire pour vraiment qu'elle puisse finir de former son plant puis commencer à produire ses tubercules.
Ça a besoin à peu près azote, phosphore, potasse, ça a besoin de comment d'unités, une patate?
On peut parler de 20 à 40 unités d'azote. Okay. Ça peut aller, même des fois, dans certaines situations, des patates qui sont plus demandantes, ça peut aller jusqu'à 200 unités d'azote.
OK, c'est très variable.
Oui, c'est vraiment variable. Vraiment, vraiment variable.
Dépendamment de quel genre de patate tu veux faire. Puis...
Pour mes side dress, là, j'ai 4 types de mélange que je mets. Là. Différent de chaque variété, parce qu'il n'y a pas une variété qui est pareille. Le dosage n'est pas pareil. La quantité d'azote, potasse, phosphore n'est pas pareille.
Là, tu as un paquet d'éléments mineurs là-dedans, probablement.
J'ai un paquet d'éléments mineurs là-dedans. Puis, il ne faut pas oublier aussi, je suis dans des sables. Le sable, c'est acide. La patate aime ça. La patate, ça pousse bien dans des sables acides. Mais tu sais, il faut que je gauge pas mal avec ça. Okay. Parce que c'est pas trop long que les maladies fongiques se mettent là-dedans, puis le partez les poignets, là. Ça peut être rock'n'roll pour un bout. Là. Ouais, c'est fait qu'ensuite, ben après le side dress, ben là, c'est l'étape la plus importante, c'est de l'eau. Beaucoup d'eau. Énormément d'eau. Puis quand tu penses que ta patate a assez d'eau, elle n'en a pas assez. Remets-en encore. Remets-en encore, elle n'en a jamais assez. Jamais, jamais, jamais. T'sais, une patate, c'est composé quand même à 70 % d'eau, puis le restant, c'est du sucre. L'important dans la patate, en y donnant de l'eau, il faut que tu t'assures que, un, que ton plant ne soit pas en stress hydrique, puis qu'il ne soit pas en stress thermique. Okay. Faut que tu gauges un peu entre les deux. Moi, je me suis toujours fait dire une patate, c'est bon quand tu lui donnes un petit peu de stress. Parce que ça va pousser à gauler un peu, à produire plus vite.
Ouais, elle va réagir.
Elle va réagir, exactement. Elle va réagir plus vite. Faut pas oublier, une patate, c'est un élément qui est vivant. Ça respire, une patate. Ça l'absorbe de l'oxygène, ça expulse du CO2. C'est vivant. Fait que faut vraiment... Il y a vraiment plusieurs facteurs qu'on joue avec ça. Vraiment, la quantité d'eau qu'on met. Tu sais, une shot d'irrigation, mettons, on peut se dire, bon, ben, on met 2 pouces d'eau pour exemple 3 jours. On va laisser reposer 2 jours, puis après ça, on repart un autre 3 jours d'irrigation.
Ton irrigation, 1 pouce d'eau équivaut à combien de gallons d'eau, mettons? T'as-tu une idée?
C'est dur à dire. C'est dur à dire parce que c'est différent d'une place à l'autre. J'ai des terres un peu plus fortes. Mettons, je pourrais dire par minute, à des places que je peux pomper du 3500 à 4000 gallons minute.
OK.
Dans des terres où est-ce que le sable draine, ça va aller jusqu'à du 4500 gallons minute. Il y a des places, ça va être du 2000. 1800, 2000, 2300 gallons minute.
Moi, le printemps, j'ai une piscine à faire remplir.
Je peux t'arranger ça, j'ai des bons moteurs d'irrigation.
Hey, ça doit être du tuyau, ça?
Oui, 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 il y a beaucoup de tuyaux. Tous mes réseaux, c'est tout du réseau souterrain. C'est du PVC souterrain. J'ai aussi de la fusion, qu'on appelle. Des tuyaux qui sont fusionnés un dans l'autre. Puis, tu sais, il y a une place où est-ce que je pompe. Là, le tuyau, c'était un tuyau de 18 pouces. Là. Fait que l'eau, ça passe. Là. Ça passe pas à peu près. Fait qu'ensuite de ça, ben là, vient l'étape des récoltes. Là, l'étape la plus importante de tout ça, parce que c'est là qu'on admet notre beau travail qu'on a fait, tout l'effort qu'on a mis là-dedans, l'irrigation, les nuits à arroser, à changer des tuyaux, à remplacer des gasquettes qui sont pétées, qui ont fendu, puis l'eau frise chez le voisin, puis qui t'appelle en panique à 3 h du matin. Ça frise sous mon patio.
Ah, OK, ouais.
Ouais, OK, c'est beau, je vais y aller. Fait que.
C'est demain que tu pourrais remplir ta piscine, ça?
Arrive. Ouais, c'est ça. C'est direct demain qu'on va remplir ta piscine. Fait que là, arrive l'étape de la récolte. On peut commencer dans les alentours du 25 juillet à récolter, puis on va finir ça à milieu, fin octobre, quand les entrepôts vont être pleins. Au début, quand on commence à récolter, ça va être des demandes des clients. Ceux qui veulent vraiment avoir de la primeur, qu'elle va être prête en premier, c'est elles qu'on va planter le plus tôt possible. Parce que la saison peut commencer fin avril. Tout dépendant des températures. Il y a une année que c'est déjà arrivé que j'ai planté le 15 avril. Mais en moyenne, ça va être du 25 au 28. Là. Ça va être pas mal là, l'étape du go pour planter. Puis si les températures sont bonnes, ça le permet. On vérifie surtout les périodes de gel. Ça peut être dangereux quand même, malgré que c'est dans le sable. Ouais. Mais il y a quand même un petit danger là-dessus. Mais ça se fait quand même bien. Là. On vient à bout de planter d'habitude fin avril. Puis on va étirer ça jusqu'à milieu, fin octobre là, pour les récoltes. Fait que là, on va commencer à récolter les primeurs. Comme là, vois-tu, présentement, on est le 16. La fin de semaine prochaine, on devrait être dans le champ là, à commencer à récolter. Puis là, pour l'étape de la récolte, avant ça, on avait des machines traînées. Il y en a qui récoltent encore avec ça. Ça peut être des 4 rangs, des 2 rangs, des 3 rangs. Il y en a qui récoltent à 3 rangs. Moi, quand je plante au 6 rangs. J'ai 2 planteurs 6 rangs. Fait que ça va quand même bien. Mes récolteurs, c'est des récolteuses 4 rangs. J'ai des récolteuses automotrices. Là, ça doit vous parler un peu. T'sais, vous autres, des gars de batteuses, hein? Des gars de batteuses. Assis dans la machine à récolter, ben c'est ça. C'est le même principe pour moi. C'est vraiment comme une grosse batteuse, mais pour les patates. Avec des convoyeurs puis tout ça, au lieu d'avoir des vis puis ainsi de suite. Puis pas de séparateur à grains, hein. Bien sûr. Sinon, ça me ferait un gros blender ambulant. Ça ferait des patates pilées des en joueurs. Direct.
T'as pas un retard central, je
l'ai. Non, fait que non, c'est ça. Puis là, dans le fond, ça va être les primeurs qui vont sortir. Ensuite de ça, ben là, rendu plus au mois de septembre, ben là, les commandes vont être pas mal finies. Puis là, on va tomber dans l'emplissage des entrepôts. Pour les entrepôts de boîtes, ben là, là-dessus, j'ai des machines aussi pour encaisser, qui vont mettre les patates en caisse. Ça, c'est des machines que j'ai achetées aux Pays-Bas. Je suis parti un été avec mon père. À la journée de sa fête, il m'a dit, on s'en va à des machines, on s'en va aux Pays-Bas.
C'est-tu des gros producteurs de patates aux Pays-Bas?
Il y en a beaucoup, mais c'est des gros producteurs de légumes, surtout. Okay. Oignons, carottes, c'est assez impressionnant là-bas. Puis surtout, il ne faut pas oublier les tulipes, les fameuses tulipes. Fait là, aux Pays-Bas, j'ai acheté une machine. C'est la compagnie Mecatec. Ils font des machines 100% robotisées qui sont faites pour mettre les patates en caisse. Puis j'ai une machine qui va laver les boîtes aussi. Dans le fond, la machine, elle est comme 2 en 1. J'ai des j'appelle ça des stackers et des stackers. Dans le fond, je vais mettre les boîtes vides sur un côté. Elle va prendre la boîte vide, avec des petits convoyeurs. Elle va rentrer ça dans l'emboîteur. Les patates, eux autres, arrivent par en haut. J'ai un convoyeur qui alimente la machine par en haut. Puis il y a une tête qui descend dans la boîte, puis elle va remplir la boîte étape par étape.
Pour pas tout maganer les patates.
Oui, au milieu du remplissage, elle se brasse pour placer les patates dans un coin, puis tout ça. Une fois la boîte remplie, elle s'en va de l'autre côté, puis elle va les empiler deux de haut. Ensuite de ça, ben là, j'ai des chariots élévateurs, pogne les boîtes, je vais porter des entrepôts.
Tout est automatique, tout.
Tout est automatique. Elle va peser ses boîtes, elle les brasse, puis elle me donne aussi, mettons, qu'est-ce que je vais avoir fait dans la journée, le nombre de caisses que j'ai remplies dans la journée, le nombre de caisses que j'ai faites au total depuis le début.
Toutes des machines à 200 pièces à peu près.
Je te trouve généreux à 200 $. ça coûte beaucoup d'argent. Mais ouais. Franchement, depuis qu'on a acheté cette machine-là, je vous le dis, les gars, la rentabilité de l'entreprise, là, okay. Ça n'a aucune limite. Aucune limite. J'ai augmenté ma production, je dirais facilement, de au moins 50 %. Pas mal ça qui englobe, mettons, d'un bout à l'autre. Puis après la récolte, bien là, bien souvent, les clients vont acheter leur quota de contrat. Moi, tout ce que je plante, c'est vendu à l'avance.
Ouais, c'est okay. ça
si c'est pas vendu, je le plante pas.
OK. Tu t'assures que qu'est-ce que tu plantes,
je m'assure d'être rentable.
L'argent pour ça.
Oui. Bon, oui, je m'assure d'être rentable parce que sinon, les variations de prix, c'est assez important. Fait que...
Puis dans vos contrats, si tu inclus, mettons, un sac de chips, moitié d'air, êtes-vous payé pour la moitié d'air qu'il y a dans le sac de chips?
La fameuse question. Bon, OK. On va mettre... Je vais mettre un terme à cette limite-là une bonne fois pour tout. D'après vous, pourquoi il y a de l'air dans un sac de chips?
Moi, je dis que c'est pas de l'air.
Non?
C'est quoi d'abord? C'est de l'air?
Je sais pas, dis-moi les.
Mais si c'est de l'air, ça va pas...
C'est pour le transport, dans le fond.
C'est pour pas maganer les chips.
On touche à un point. Dans le fond, c'est surtout pour le côté expérience client qui met moins de chips dans le sac. Il y a un petit peu plus d'espace. Parce qu'au début, quand le sac était bien plein, le client arrivait, met ça dans le panier, met ça dans le sac, amène ça à la maison, rendu à la maison, rouvre le sac, hein?
Tout écrasé.
Toutes des miettes. Pas le fun de manger des miettes, là. Toi, tu veux manger une belle chip ronde, hein?
Ouais.
Surtout quand elle est bien grosse, puis t'en manges à deux bouchées, c'est le fun, là. C'est pour ça.
Ah, ouais?
C'est uniquement pour ça.
Qu'il y ait de l'espace.
C'est que pour le client.
Pour qu'elle bouge, pour pas qu'elle se fasse. Ouais.
Et voilà. Le transport, c'est une chose. Une fois qu'elle est produite en usine, le transport, après ça, les épiceries. On ne veut pas dire que le petit gars dans l'épicerie il est ben doux avec les sacs de chips là, quand il va y placer dans l'allée à 9h30, 10h le soir. Là. On va toujours en avoir des miettes dans les sacs de chips. Mais principalement, pourquoi qu'ils mettent moins de chips dans le sac, un petit peu d'air, pour que le sac soit dur, bien ferme, c'est pour ça. C'est pour éviter qu'on se ramasse avec des sacs de miettes.
Fait qu'arrêtez de vous plaindre qu'il y a de l'air dans les sacs de chips.
C'est assez, là. Je vous le dis, c'est assez.
Comment ça marche avec Frito-Lay? C'est, mettons, ils te garantissent qu'ils vont t'acheter... Tant de kilos de patates.
Oui, exactement. Dans le fond, avec Frito-Lay, ça marche par contrat, ça aussi. On a un contrat pour des quantités de patates. On a des variétés qui sont attitrées Frito-Lay seulement.
Okay.
Parce que dans le monde de la patate, on a deux types, mettons, de patates qu'on peut se procurer. Il y a des variétés qu'on appelle publiques, qui sont ouvertes à tout le monde, que tout le monde peut acheter. Vous pouvez vous-même appeler chez un semencier pour avoir des variétés de patates.
Pour en planter chez vous, maintenant.
Bon, pour en planter chez vous, ça se fait, là. Ou même, tu peux acheter même un sac à l'épicerie, tu vas les couper, tu les plantes dans le jardin, merci, bonsoir, ça se fait. Il y a des variétés publiques, puis il y a des variétés qui sont privées. Là, dans le monde de Frito-Lay, on parle de variétés privées. C'est des variétés qui leur appartiennent.
Okay. Qui ont bâti.
Oui.
À l'île du Prince-Édouard, ils font quelque chose de particulier quand même.
Oui, ouais. À l'île du Prince-Édouard, il y a encore une ferme qui récolte 100 % à la main. 100 % à la main. Puis ça, c'est, écoute, je sais pas quelle grandeur qu'ils font, mais tu sais, récolter 100 % à main, ça prend du... Un, ça prend du monde. Deux, c'est des gros barils de bois.
Okay.
Tu sais, le monde va se mettre à quatre pattes, ils vont déterrer patates, ils vont passer une petite machine avec juste un petit pont, ils vont déterrer patates. Après ça, le monde passe en arrière avec des chaudières, ramasse ses patates, va porter ça dans le baril au milieu du rang. Puis après ça, quand la journée est finie, là, le truck, il passe dans un rang, puis il ramasse les barils. Puis ils emmènent ça à l'entrepôt. Vide les barils, puis on repart.
Wow.
À main.
Ils vont-tu chercher un plus-value de ça ou.
Aucune idée.
Ouais, c'est vrai.
La seule chose que je vais vous dire, ben, prenez votre véhicule, l'île du Prince-Édouard, ouais. Allez voir ça. Okay. Ça vaut sûrement la peine.
On aime ça, nous autres, jouer à Farming Simulator.
Ah, regarde dans ça.
On veut tout le temps acheter la plus grosse machine là, dans farming. T'as-tu la Grim automotrice que tu parlais? C'est-tu la plus grosse que t'as? Ou...
C'est une des plus grosses, c'est pas la plus grosse. La plus grosse, ça va être la compagnie De Wolf qui ont ça. Okay. C'est une benne de 32 000 livres qu'il y a là-dessus. C'est une benne, un truck. Merci, bonsoir, tu t'en vas à l'entrepôt.
Pas de temps de niaiser.
C'est vraiment une grosse machine, mais on parle d'une machine à 2 millions.
C'est un autre investissement.
C'est un autre paire de manches. Regarde, moi, j'ai investi l'été passé des récolteuses automotrices. J'en ai acheté deux. C'est un investissement. C'est un gros investissement. Ça fait mal au cœur. Au début, tu te dis, ouais, là, je viens-tu de faire une erreur? T'sais, j'ai dépensé tout ce montant-là pour deux machines. Mais ça reste la fine pointe de la technologie. Ça reste, c'est des machines qui se travaillent toutes seules. Tu sais, avant ça, ça me prenait au moins 10 gars dans le champ. Tu sais, ça me prenait 3 opérateurs. Mettons, 2 pour les andaineuses, 1 pour la récolteuse, les chauffeurs de camions, le monde à l'entrepôt. Dans la star, on est 2 gars dans le champ. Chacun nos machines.
Les trucks.
Mais tu sais, j'ai plus besoin genre de machines qui vont manipuler les patates avant pour les mettre dans le fond du rang, puis après ça, passer et ramasser. C'est de la manipulation de plus, c'est du dommage de plus, tu sais. Ouais. Le moins que t'es brasses, le mieux que c'est. Ouais. Fait que les patates, c'est ça. J'essaye de moins brasser. C'est pour ça que je me suis procuré ces machines-là. C'est moins de manutention. C'est direct. C'est des machines à fine pointe de technologie. C'est des machines qui sont ajustables, hydrauliques à 100%. Je contrôle toutes mes vitesses de conveyeur pour que ça soit le plus doux possible, le moins de dommages possible.
C'est quoi les différentes mises en marché de la patate?
Il y en a beaucoup. Il y en a quand même beaucoup. Principalement, j'arrête pas de vous parler tantôt de la croustille. La croustille, c'est quand même un très gros marché. L'emballage, ça en a un autre qui est très gros. Après ça, la transformation, ben là, on peut avoir du surgelé, on peut avoir de la frite. On peut avoir de la transformation de sous-produits, comme exemple, que ce soit, comment ils appellent ça, donc? Le stache. Dans le fond, faire de la farine, des patates déshydratées, des choses comme ça. Fait que oui, la mise en marché, c'est quand même assez important au Québec. On a vraiment des belles entreprises qui nous aident là-dedans. Puis de la mise en marché, on n'a pas de problème avec ça. Puis quand on a de la misère ici au Québec, il y en a plusieurs qui exportent aussi aux États-Unis, Ontario, Maritime. Puis il y a du stock en masse. On n'en manque pas. Okay. Pour des producteurs de vrac comme moi, je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs autres qui font du vrac. Pour des producteurs de vrac, on a de l'opportunité en masse. Il n'en manque pas.
Tu dis producteur de vrac, c'est quoi l'autre?
Il y a des producteurs emballeurs. Okay. Mettons, le producteur emballeur, lui, il va avoir un centre d'emballage qui est à lui, puis il peut emballer son produit. Puis un coup que lui, ses entrepôts sont vides, il peut l'acheter d'ailleurs, emballer d'ailleurs, okay. Puis vendre aux distributeurs ou des choses comme ça.
OK.
Il y en a qui font ça. Mais là, encore là, on parle d'un coût supplémentaire parce que là, il faut que tu t'installes une ligne d'emballage, une ligne de lavage, parce que tes patates, tu les emballes pas si tu les laves pas. Ouais.
Tu as parlé un peu de nématodes tantôt puis de gales. C'est quoi les maladies, les ravageurs que tu as pas mal dans tes patates?
Oui, bien, principalement, on va parler de la gale. Il y a différents types de gales. Il y a des gales de surface, il y a de la gale creuse, il y a de la gale verruqueuse. Ça, c'est celle que tu ne veux pas dans tes entrepôts, principalement, parce que c'est une gale qui coule. Puis si ça coule, ça affecte tout le monde. Fait que c'est ça. Dans les types de gales, c'est ça qu'on va regarder le plus souvent. La gale qui va être profonde, elle va atteindre vraiment la chair un petit peu plus profond que celle de surface. De surface, on peut parler seulement de la peau qui peut être atteinte, ou on peut parler peut-être de même pas un centimètre dans la chair qui peut être atteinte. La gale de profondeur, on peut parler vraiment jusqu'au cœur ou on peut parler des fois d'un 3 à 5 cm de profondeur. Okay. Puis la verruqueuse, ben là, elle, ça annonce... Bien souvent, c'est très mauvais signe, okay. La gale verruqueuse.
Parce que dans le fond, elle se propage sur toutes les autres.
Oui, c'est ça. Elle va couler, elle va se propager sur les autres. Puis comme je l'ai répété tantôt, si vivant une patate, fait que les maladies, ça se transmet d'une à l'autre. Une fois dans les entrepôts, avec la ventilation, ça respire, les maladies se propagent. Les spores, il y a certaines maladies fongiques qui vont créer comme une mousse sur la patate. Un coup qu'elle est en entrepôt, qu'elle va tomber en dormance, qu'on appelle, bien souvent, le champignon va se développer, il va faire des spores, puis avec la ventilation, il va se promener, puis il va se propager dans tout le reste. Fait que là, on parle bien souvent des fois, on peut parler d'une perte carrément d'une bine, où on peut parler d'une perte de récolte à 100 %. Okay. Ensuite de ça, les insectes, ben là, les insectes, on connaît toute la fameuse bébite à patates. Ça, c'est l'ennemi numéro un. Dans les insectes, on parle aussi de la cicadelle, on peut parler de la chenille, parler du puceron. La chenille, anciennement, dans mon coin, c'est un gros coin de production de tabac. Puis à l'époque, on avait le vert fil de fer, qu'on appelait. Ça, c'est un ravageur du tabac, puis qui s'est transféré dans la patate, parce qu'ils sont sensiblement quand même dans la même famille de plantes. Fait que, okay. Tu sais, que ce soit le tabac ou les patates, ils l'aimaient bien. Fait que ça s'est transféré un petit peu là-dedans. Aujourd'hui, on n'en a plus, parce que depuis le temps qu'ils font plus de tabac, il a migré, il s'est déplacé, il s'est en allé ailleurs. Fait que là, on parle vraiment pas mal juste de la bébite à patate, de la cicadelle, puis du fameux nématode, que ça, lui, c'est un ver microscopique, mais lui, il est dans le sol, puis on le voit pas. Des maladies, vous devez sûrement connaître le mildiou.
Oui.
Ça aussi, ça peut être un de nos ennemis. On en a décelé un petit peu l'année passée. Il y a eu quelques places que j'ai dû passer un coup d'herse dans mes patates parce qu'il avait été atteint par le mildiou. Puis là, on pouvait pas laisser de place à ça. Puis la zone, dans le fond, de traitement, on était carrément en droit de la zone de traitement. Il n'y avait plus moyen de récupérer ça.
Okay.
Fait qu'il fallait vraiment l'éliminer pour assurer que ça ne l'atteigne pas, mettons, le restant de la production dans ce coin-là. Fait que c'est pas mal ça, le restant, tu sais, des ravageurs. Il y en a toutes sortes, des fois, même les animaux, peut-être un ravageur. Mm-hmm. Il y a des cerfs qui se promènent dans un champ qui vont gratter le sol, ils vont déterrer des patates, ça arrive.
Puis quand tu entreposes, ton entrepôt, c'est-tu ouvert à grandeur ou t'as fait des cellules pour pas que ça se propage l'une de l'autre?
Oui, exactement. Moi, c'est séparé par bine. C'est des bines, des fois, mettons, ma grosse entrepôt où est-ce que je stocke mes croustilles, j'ai 4 bines de 25 000 quintaux, puis j'ai 2 bines de 20 000 quintaux.
Okay.
Vous savez c'est quoi des quintaux? Un quintaux, mettons, un quintaux dans un arc, c'est le nombre de 100 kilos que je vais sortir dans un arc. Fait que si je dis, bon, ben dans ce champ-là, j'ai 300 quintaux de rendement, ben je vais sortir 300 sacs de 100 kilos dans l'arc.
Okay.
C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que si on parle d'une bine de 25 000 quintaux, on parle d'une bine de 25 000 fois 100 kilos.
Quand même.
Quand même.
T'as-tu un registre à tenir? Connais-tu Canada Gap? Je crois que oui. Tu le connais.
Oui.
Ça, comme Christian dirait, c'est-tu comme un papa qu'il faut que tu donnes des comptes à rendre?
Oui. Effectivement. Canada Gap, c'est ce qui me permet de vendre mon produit parce que sans ça, je ne vendrais rien. J'aurais pas le droit de vendre carrément. Surtout qu'est-ce qui est frito-lait. Vu que les usines sont au Canada puis aux US, c'est pas si pire. Canada Gap, ils l'acceptent, mais pour ceux qui font de l'exportation, ça prend le Global Cap qu'ils appellent. Ça, c'est mondial.
Parce que dans le fond, c'est un registre de tout.
C'est un registre de tout. Le taux de phosphore qu'on applique. Là-dedans, on va inclure aussi le fameux PAF. Là.
Ouais.
Ensuite de ça, ben là, ça englobe aussi toute la manutention des patates, tous les équipements, la liste d'entretien des équipements, qu'est-ce qu'on a fait, puis les dates qu'on a appliquées, les dates qu'on a travaillées, les heures qu'on a travaillées. C'est tout inclus là-dedans. Puis une fois par année, on a un examen. Il y a quelqu'un du Canada Gap qui vient évaluer notre ferme. Puis si on a en bas de 98 % on l'a pas. Ils ne nous donnent pas notre certification. Fait que tu sais, il faut être au quart de tour, puis pas à peu près.
Mmh.
C'est de l'ouvrage. C'est vraiment de l'ouvrage. Moi, je dis aujourd'hui, tu peux pas être agriculteur si tu n'aimes pas la job de bureau parce que tabarouette, il y en a du papier à faire.
Oui, puis il va juste en avoir de plus en plus. Là.
Surtout pour ça. Surtout pour le Canada Gap. Là. Mon agronome, tu sais, j'ai engagé un agronome, moi, à temps plein chez nous. Ça va faire 10 ans qu'elle est chez nous. Puis, elle fait que ça. C'est que ça.
Puis, ça te rapporte rien de plus?
À part que je peux vendre mon produit. C'est quand même la raison numéro un que je peux me dire, crime, je peux vendre. Sans ça, oublie ça.
Parce qu'il y a ça pour tous les produits maraîchers, je pense.
Oui, je pense que oui. Puis là, après ça, ben là, Frito, ils ont certaines exigences, eux autres aussi, du côté de leur fournisseur. Tu sais, on travaille avec une application qu'on appelle CropTrack, dans le fond. Puis c'est vraiment, elle, c'est de la traçabilité à 100 % de la ferme. Ça veut dire quelle variété est dans tel champ, qu'est-ce qu'on a mis dans le champ, à quelle date ils ont été récoltés, à quelle date ils ont été livrés chez Frito-Lay. Puis après ça, l'usine qui a accepté mes pommes de terre, ben là, elle va dire... Bon, ben, les patates, ils ont été rentrées à telle heure dans l'usine, ils ont été transformées à telle heure, puis ils ont été ensachées à telle heure. C'est vraiment de la traçabilité de vraiment du début à la fin. Fait que c'est un peu un couteau de double tranchant.
Ouais, ouais, ça permet d'avoir de l'historique d'un suivi. Là.
Ouais, c'est ça.
Tu nous as dit que tu as des statistiques un peu en poche.
Oui, je vais sortir ça. Je vais commencer par les statistiques canadiennes pour la production de patates. Je vais y aller par certains secteurs clés. On va commencer par la superficie ensemencée par province en hectares. Là, les superficies que je vous donne, c'est en hectares.
Okay.
On parle de la production 2021, présentement. Production 2021, à l'Île-du-Prince-Édouard, il se cultivait pour 34 803 hectares de patates.
Hein?
Combien?
34 803 hectares de patates. Pour le Québec...
Hey, on en mange de la patate.
Non, mais c'est grand, l'Île-du-Prince-Édouard.
Ouais, c'est très grand.
C'est plus ça. C'est grand pareil. Là. Puis pour le Québec, on parle de 18 974 hectares en 2021 de production. Puis la superficie récoltée, on a parlé de l'Île-du-Prince-Édouard tantôt. Qu'est-ce qui a été récolté en 2021? On parle de 34 499 hectares récoltés versus 34 800. Fait qu'ils n'ont pas eu une grosse perte.
Ouais, ouais. Ça a bien été.
Puis nous autres, pour le Québec, on parle de 18 841 versus 18 974. Fait que là aussi, il y a quand même eu pas une grosse perte.
Côté maladie, c'est pas tant...
Ben, c'est bien contrôlé, je pense.
C'est ça. C'est pas nécessairement non plus les maladies. Ça peut être aussi plusieurs facteurs.
Parce que dans le fond, il se produit le double de patates sur l'île du Prince-Édouard qu'au Québec.
Ensuite de ça, là, je vais vous donner la superficie totale des variétés de pommes de terre de semences enregistrées qui sont cultivées au Canada. Là, je parle des semenciers, ceux qui, dans le fond, me procurent ma semence. Là, vous allez rester surpris du plus gros producteur de semences au Canada. Non, c'est pas l'Ontario, c'est pas le Québec. Le Québec, c'est un des importants, mais pas tant que ça. Pour le Québec, on parle de 3293 hectares. Le plus gros, on va parler de l'Alberta, 5800. 5860 hectares. Puis là, on va transférer juste vite pour les États-Unis. L'Idaho, en 2021, on parle de 315 000 acres. Puis juste pour vous donner une idée, il y a deux régions aux États-Unis, deux États aux États-Unis qui ont planté dans le 3 chiffres de 1000 acres. On parle de l'Idaho avec son 300 000. Puis on parle de l'État de Washington avec 155 000 acres de patates qui ont été plantées. Les patates utilisées pour la transformation aux États-Unis. Les quantités, c'est assez surprenant. On va parler de l'Idaho, l'Oregon, le Maine, qui ont récolté par tranche de 1000 quintaux. Pour l'Idaho, on parle de 86 863 000 quintaux qui ont été transformés.
Celle-là, je sais que tu l'attends depuis le début. Tu le roules-tu ou tu le coupes ton spaghetti? Frites ou pilées?
Frites, pilées, chips, barbecue. Tout. Nomme-les toutes. Je les aime toutes.
J'ai pas assez de place.
Hey,
merci beaucoup, Max.
Ouais, ben, merci.
Super, merci super intéressant. Pour vrai.
Pour conclure, ben, vous l'avez vu un petit peu au début, mais j'ai un petit cadeau pour vous autres. Fait qu'allez-y, je vous invite à l'ouvrir. Ça, c'est une gracieuseté de la Fédération des producteurs de patates du Québec. Je vous offre un magnifique tablier. En plus de ça, ça aussi, c'est une avant-première parce qu'ils sont pas en vente encore.
Ouais.
Oh,
hey. Sans joke, des beaux tabliers pour faire du barbecue. Écrit les patentes patates.
Les patentes patates.
Ouais. Puis vous avez aussi le livre les patentes patates.
Pis c'est quoi? C'est genre l'histoire de la patate?
Livre,
ah, il y a
ouais,
des images, Martin, t'es correct.
Ah, c'est correct.
Oui, dans le fond, il vous parle un peu de l'historique de la production de patates au Québec. Vous avez aussi la description de certaines variétés. Vous avez des recettes. Il y a des rencontres avec des producteurs aussi qui ont été faites. Comme le gars qui est sur la page couverture, c'est un de mes bons chums, Jean-Christophe, qui est placé à la Norée. Fait que...
Hey, tu vas être content, Brad? Tu vas arrêter de te brûler la peau quand tu fais ton bacon, là, tout nu?
Mais là, l'autre affaire, il va falloir que je rajoute des patates sur mon poêle à grillade.
Exactement.
J'ai pas le choix.
Puis en bonus, ben j'ai apporté un autre sac supplémentaire que vous allez faire pouvoir tirer à vos auditeurs qui vont tomber propriétaires d'un magnifique tablier et d'un livre épatant de patates.
Merci.
Offert
merci
par la Fédération des producteurs et en mon nom aussi personnel.
Wow. Merci.
De rien, ça me fait plaisir, les boys.
Ah ouais.
Merci de m'avoir reçu à votre émission. Ouais. Franchement, continuez votre bon travail. J'ai vraiment apprécié. Puis je vais continuer d'écouter vos épisodes religieusement. C'est vraiment intéressant.
C'est le fun quand, en plus, c'est toi qui nous a contactés. Oui, que tu étais vraiment intéressé à venir jaser ta production. Puis c'est important. C'est le fun quand quelqu'un est là puis qui veut venir jaser ses affaires. Puis tu sais, t'as parlé longtemps puis plein d'affaires de ta production. Puis c'est ça qui est intéressant. Tu sais, la patate, on en mange toutes des patates, des frites, des chips, tout. Ah, oui, mais on en
parle. C'est tellement un légume méconnu. Puis il y en a plusieurs domaines qui sont méconnus. Tu sais, des producteurs maraîchers, j'en connais beaucoup qui se développent dans différentes cultures, que ce soit la carotte, l'oignon. Tu sais, les gars, c'est des productions super intéressantes, surtout les oignons aussi. Mm-hmm. C'est quand même intéressant comment c'est fait, les carottes aussi. Mais je vous dirais, la patate, c'est pas mal la plus mal aimée de toutes, qu'on s'intéresse pas trop à la production. Malgré le fait que vous en consommez au moins une fois par jour.
Max, tu restes avec nous autres pour la fin du podcast?
Certainement, je vais rester avec vous autres.
Parfait.
Excellent. Super. Yes, fait que t'as-tu des tunes pour nous autres, mon Jean?
Ouais. On va commencer avec un groupe québécois, Lendemain de veille. Yeah. On a vu à Saint-Tite des God Party. Ça, eux autres, là, c'est... t'es connais-tu un peu, Lendemain de veille?
Oui.
C'est ça, c'est... tu peux pas être tranquille dans leur spectacle. Là. Ça prend de quoi dans la main? Puis pas trop pleine parce que tu vas renverser parce que ça se peut que ça chicote un peu. Lendemain de veille, dans le fond, c'est un groupe qui vient de la Rive-Sud. Ça a été formé ça, en 2008. Ça fait quand même un bout.
Mm-hmm.
Puis c'est cinq personnes ensemble, cinq musiciens qui ont parti ça. Puis petit à petit, ils se sont fait connaître. Mais c'est drôle parce que ça a parti d'une Saint-Jean, le 23 juin 2008. Ils se sont fait demander de faire un show à Saint-Jean. Puis là, il n'y avait même pas de nom de groupe. Là. C'était même pas le lendemain de veille. Là. C'était vraiment sur le side. Là. OK, on fait toute la musique, on va faire ça. Puis le lendemain, genre ils ont fait leur show. Ils se sont fait tout de suite demander, le soir même, s'ils peuvent faire un show le lendemain à une place. Puis là, eux autres, ben, dans ce temps-là, ils étaient payés en caisse de bière. Fait que le lendemain, ils étaient maganés pour faire l'autre show. Puis l'animateur de la soirée, c'était Étienne Danault. Puis là, tiens, il a demandé c'est quoi votre nom de groupe. J'ai dit, ben, on n'a pas. Il m'a dit, ben, avoir votre face, ça va être lendemain de veille. Fait que c'est le même que ça devient lendemain de veille. Ah, c'est. Original. Ouais, c'est original. C'est... Puis, c'est le fun à écouter, là, ces gars-là. Là. C'est 3 millions d'écoutes sur Spotify, quand même. Tu sais, avec leur fameuse tune, on était sous. C'est immanquable, là. Quand... ouais, super le fun. Fait que. Dans le fond, Lendemain de veille, c'est intéressant. Sur leur site, ils ont un petit récapitulatif de tout ce qu'ils ont fait, dont les spectacles. Ils ont 666 spectacles de fête. C'est 5 musiciens. C'est 9876 bières de but. Puis c'est 13275 shooters.
C'est vraiment des informations importantes.
Tu vois comment...
Ça, c'est eux qui se souviennent.
Oui, ça, c'est de ce qu'ils se souviennent. Je sais pas ce qu'ils comptabilisent là-dedans, là, ce qu'ils font, là, mais...
Moi, je pense que c'est ça qui me perturbe, c'est le fait qu'ils comptent le nombre de bières qui descendent puis le nombre de shooters.
Ouais, mais...
Puis qu'ils mettent ça sur leur site.
Oui, mais faut être fier. C'est...
faut être fier. C'est vrai, faut être fier. C'est le Québécois.
On va écouter de la bière au ciel, on était sous, puis leur dernière collaboration qu'ils ont faite avec Martin...
Du fort.
À tous les vendredis.
On pensait chacun leur tour. Soudain, je me suis retrouvé seul avec ma bière. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a des panneaux ouverts 24 heures, oui. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. On était quatre dans chaloupe, y'en avait un dans le bungalow. Puis on avait de la misère à se tiendre.
On était quatre dans chaloupe, y'en avait un dans le bungalow.
On était sous,
ben sous,
ben sous,
ben sous.
On était sous l'effet de la bière. On était sous,
ben sous,
ben sous,
ben sous.
On était sous l'effet de la bière.
T'attends cette bière pour passer l'hiver. En masse de rhum pour te rendre à l'automne. Pas de chance à prendre, faut pas qu'on en manque. On n'arrête plus quand le fun commence. On va boire toute la nuit. Dans le temps de le dire, il sera rendu midi. On sort les guides puis on reste ici. C'est demain que ça se passe à tous les vendredis.
Ouais. Deuxième artiste, artiste américain. T'es-tu amateur country?
Oui, ouais. Vraiment beaucoup. Énormément, même.
Fait que je sais pas si vous avez deviné un peu. C'est qui qu'on va choisir?
Larry Fleet.
Non, Kenny Rogers. Non, c'est vrai, ça va être Larry Fleet. Larry, ça a été mon coup de foudre l'été passé. J'ai juste écouté ça tout l'été. Là. C'était quand je l'ai découvert, là, puis là, je me suis mis à écouter de plus en plus ses tunes, puis je suis un tabarouette qu'il y a une voix. Tu y ressembles un peu. On te mettrait une longue barre.
Mais ben John, c'est lui!
C'est moi!
Ouais, Larry, il a été découvert, lui, par Jake Owen en 2017. Il faisait un spectacle, ben il faisait une soirée là, dans une grange, puis il jouait, puis lui, il était là, Jake. Puis il a dit « Hey, tu chantes pas pire? » Fait qu'il a commencé à faire ses premières parties à Jake. Puis de plus en plus, ben là, il co-écrit sa chanson qu'il a faite popper, Where I Find God. Fait que là, ça a continué de plus en plus. Puis aujourd'hui, il en est ce que c'est, que ça n'arrête pas. Il est dans la même société, dans le fond, Big Loud, qu'un certain Morgan Wallen.
Je
ne sais pas si... c'est pour ça qu'il y a... il y a une vidéo, ça a passé, là, ce TikTok, là, qu'on voit Morgan chanter, ouais, ça tourne avec. Là. Ouais. Ben, c'est pour ça qu'ils ont... On va faire un petit coup de marketing, d'après moi, ça l'a aidé un peu, là. Fait qu'on va écouter Baby You Do, Try to Exist, puis Where I Find God.
Clichés don't take my breath away.
Fait que les événements?
Dan?
Fait que oui, encore plein d'événements au mois de août.
Où?
J'étais pas sûr.
Où?
Où? Fait que oui, il y a beaucoup d'événements, dont un de nos anciens invités, qui est Jordan Poirier. Il va venir à l'autodrome de Granby le 25 et 26 août. Il va venir courser à Granby. Fait que après ça, il y a. Ben, avant ça. Il y a l'assaut du 18 au 19 août. Il y a le Festival Country de Longueuil, la 22e édition, du 24 au 28 août. Il y a l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, du 27 juillet, que j'avais déjà dit, du 27 juillet au 5 août. Ça va être comme là. Il y a l'Expo agricole de Rimouski, du 2 au 6 août. Ça va être pas mal là aussi. L'Expo Vallée de l'Aquatico, ou autrement dit, le Festival du lait. C'est plus facile de dire Festival du lait.
Ouais, on dirait.
Du lait de vache ou du lait?
Du lait
L-A-I-T. OK.
Fait que le Festival du lait du 4 au 6 août, l'Expo de la Beauce du 9 au 13 août, l'Expo agricole de Lobinière du 9 au 13 août, l'Expo agricole de Bedford du 10 au 13 août, qu'on va à chaque année quasiment, l'Expo agricole de Portneuf du 11 au 13 août.
Celle-là aussi, tu y vas chaque année?
Portneuf, c'est un peu plus loin que chez nous. L'autre bord de Saint-Hyacinthe.
OK, merci, je savais pas.
L'Expo agricole de Cookshire du 17 au 20 août. L'Expo agricole de Ayers Cliff du 17 au 24 août. Puis il y a aussi l'Expo Champ qu'on va aussi à chaque année. Là, c'est le 29, 30, 31 août. Que c'est des exposants agricoles, des tracteurs, des trucs de
semences, de tout.
Des four à sirop d'érable, etc. Et j'en passe.
Good.
Merci beaucoup encore.
Ouais, merci, ben, beaucoup.
Merci, les gars.
Puis merci pour le cadeau.
Ouais, ça me fait plaisir. Gentil, la bière, franchement, ça me fait vraiment plaisir.
Yes. Fait que merci aux auditeurs, comme d'habitude. Yes.
Pouce bleu, on s'abonne.
Yes, mon Dan.
Yes, sir, Dan.
Merci à nos commanditaires, comme d'habitude, toujours présents, la récolte des cantons puis la construction des langues. Puis sinon, ben pour vrai, si vous êtes intéressé, comme Max qui nous a contacté pour venir jaser de sa production, gênez-vous pas, pour vrai, c'est super intéressant puis c'est le fun quand quelqu'un nous contacte puis qu'il voudrait jaser
de sa production. Il y a une personne qui nous écoute.
OK, on vous dit à la prochaine.